La maison de l'investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartiers, président fondateur de la maison de l'investisseur sur Radio Immo.
Bonjour et bienvenue sur Radio Immo dans ce premier numéro de la Maison de l'investisseur. Pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, Stéphane Descartiers, fondateur de l'entreprise éponyme, la Maison de l'investisseur. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Alors avant de commencer sur ce format, ce nouveau format d'émission qui sera mensuel et donc nous nous retrouverons chaque quatrième mercredi du mois à 10h10 précise, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, cher Stéphane. La Maison de l'investisseur, c'est venu comment ?
Alors, c'est venu il y a 22 ans déjà, hein, à la fin du XXe siècle, en 1999, d'une idée, d'une intuition, effectivement, que j'ai eue à l'époque, consistait à se dire qu'il fallait un service spécifique pour l'investisseur en immobilier. Mmh. Donc, j'ai créé la première agence à Paris. Et aujourd'hui, donc, nous sommes un réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs, comme notre nom l'indique. Et nous sommes présents donc, à Paris, à Bordeaux, à Lyon et à Lille. Et on a vendu un petit peu plus de 10 000 logements en 22 ans. Et nous sommes à peu près aujourd'hui 70 collaborateurs.
Alors c'est assez rare quand même des agences immobilières spécialisées dans l'investissement. C'est parti d'un constat ?
Oui, c'était ce constat effectivement qu'il n'y avait pas forcément tous les services et toutes les compétences pour le client investisseur en agence immobilière, puisque les agents immobiliers sont, il y a de très bons agents immobiliers en France, mais l'investissement locatif, c'est vraiment une discipline spécifique qui demande des compétences, notamment en fiscalité, en financement, qui sont parfois présentes dans les agences immobilières, mais pas toujours. Donc voilà, nous avons décidé de créer vraiment un service dédié.
Eh bien écoutez, en tout cas Stéphane, je suis ravie de faire cette émission avec vous. Investisseurs confirmés ou en herbe, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous suivre et à nous les poser via les réseaux. Nous avons décidé de concert avec Stéphane de poser chaque mois une question sous la forme d'une devinette. On se retrouve donc juste après ça.
La maison de l'investisseur, la devinette du mois.
Retour sur le plateau de la Maison de l'investisseur, toujours en compagnie de Stéphane Descartiers. Alors, la devinette du mois, cher Stéphane, on en parle ?
Allons-y.
On en parle. Secteur bourgeois ou populaire pour investir ?
Alors oui, c'est la question que nous posent souvent beaucoup d'investisseurs en herbe ou parfois aussi confirmés. Voilà, est-ce qu'on doit investir plutôt dans les quartiers bourgeois, dans les quartiers populaires ou intermédiaires ? Et c'est vrai que alors la maison de l'investisseur et puis moi aussi à titre d'investisseur pour mes investissements personnels. Et j'ai surtout également accompagné beaucoup d'investisseurs dans des choix de quartiers, etc. Et j'ai beaucoup appris également de mes clients vendeurs, et notamment parce que des clients vendeurs qui font des arbitrages à un moment donné. Et j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs qui avaient développé des patrimoines très importants, de 20, 30, 50 biens immobiliers locatifs. Et en tout cas, pour ceux qui avaient développé des patrimoines importants, je me suis rendu compte que tous, à peu près, avaient utilisé les mêmes recettes et notamment avaient beaucoup investi pratiquement essentiellement dans des quartiers populaires ou intermédiaires avec très peu d'apport personnel et pour rechercher un autofinancement, c'est-à-dire pour rechercher tout de suite ou assez vite en tout cas un équilibre entre le remboursement d'un crédit à 100% et les loyers qui venaient couvrir ce crédit. Et pour arriver à ce ratio-là, il faut aller chercher de la rentabilité. Et la rentabilité, on le sait, on le devine, mais on le constate tous les jours, est beaucoup plus importante dans les quartiers populaires ou intermédiaires que dans les quartiers bourgeois.
C'est vrai que c'est une question légitime et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de se la poser pour ce tout premier numéro. J'aurais tendance à penser que si j'investis en secteur bourgeois, j'ai peut-être plus de facilité derrière à trouver entre guillemets une clientèle avec laquelle je n'aurai pas de problème et surtout je n'aurai pas de difficulté pour la revente de mon bien. Donc c'est pas forcément le chemin de pensée qu'il faut avoir.
Pas forcément, parce que, effectivement, notamment pour le dernier crack vraiment immobilier qu'on ait connu, notamment en 90-91, alors on est assez peu à s'en rappeler, hein, malheureusement, aujourd'hui, mais en tout cas, moi, j'étais déjà présent sur le marché et j'ai constaté à l'époque que ce sont les quartiers bourgeois qui ont craqué le plus. C'est notamment Paris, l'Ouest parisien, qui a craqué le plus en 90-91, avec des baisses à l'époque jusqu'à 40%.
C'est énorme.
Voilà, c'était quand même très important. Dans les quartiers intermédiaires ou populaires, on a en France quand même nos amortisseurs sociaux qui font que les classes moyennes, moyennes inférieures ont finalement moins de mal à traverser les temps difficiles. Et puis, regardez, actuellement, on a tous constaté que les prix commençaient à baisser à Paris. Et où est-ce que les prix baissent le plus aujourd'hui ? Dans le 6e, dans le 7e, dans le 16e arrondissement, avec pour le 7e, par exemple, une baisse de 6% déjà sur les prix. Aussi parce que dans les quartiers bourgeois, on a une population de cadres, de chefs d'entreprise qui ont plus de mal quand les situations se tendent. Donc finalement, avec une désolvabilisation aussi de ces populations qui fait que ce n'est pas forcément dans les quartiers les plus chers, dans les quartiers les plus bourgeois, qu'en tout cas les prix tiennent le mieux.
D'accord. C'est vrai que on remarque effectivement que les prix marquent le pas depuis, je pense, la fin février, début mars, en tout cas en ce qui concerne Paris. Ce qui est étonnant, enfin, c'est pas étonnant en fait, dans le sens où justement ces quartiers-là sont des quartiers qui s'étaient beaucoup envolés
aussi.
Qui
avaient beaucoup monté aussi, bien
voilà.
Sûr.
Oui, tout à fait. Donc forcément, ils sont les premiers à monter, mais ils sont aussi du coup les premiers à descendre.
C'est vrai.
Et je vous pose la question là en tant qu'expert, mais par exemple sur une ville comme Paris, quelle est la différence de prix au mètre carré entre un secteur bourgeois, donc on parlait du 6e, du 7e, et un secteur populaire qui serait peut-être plus le 18, 19, 20, si tant est qu'on puisse encore parler de secteur populaire sur Paris.
C'est des prix qui varient quasiment du simple au double, hein, puisqu'on a encore pour Paris Intramuros, par exemple, des quartiers dans le 18e, 19e, où on va être à 8000 euros du mètre, et on sait bien que dans les quartiers les plus chers de Paris, 5e, 6e, on sera au-delà des 20 000 euros du mètre, donc c'est des prix qui vont du simple au double, donc et des loyers qui ne sont pas du simple au double, pas du tout.
Avec le plafonnement, d'autant plus.
Alors notamment avec le plafonnement, mais même si on oublie le plafonnement, n'importe qui aujourd'hui constatera avec facilité, en regardant les sites d'annonce, que même si on reste par exemple sur la périphérie de Paris, vous obtiendrez en banlieue ouest par exemple, aujourd'hui, sur un studio ou un petit deux pièces, un maximum de 3-4% de rentabilité. Alors que dès que vous passez sur le sud de Paris, qui sera plus intermédiaire, Vanves, Malakoff, on trouvera assez facilement du 5-6% de rendement sur des petites surfaces. Et si vous allez dans le nord ou l'est de Paris, là, on pourra arriver à 7-8% de rendement.
Donc, ça existe encore du 7-8 aujourd'hui.
Oui, ça existe encore sur des petites surfaces meublées dans des quartiers, alors qui ne font pas forcément effectivement rêver, mais qui sont avec. Ça s'explique assez bien parce que alors ce sont des secteurs qui sont de toute façon tendus en termes de pression locative. Il n'y a pas de problème pour louer. Mais il y a beaucoup moins de pression à l'achat, tout simplement parce qu'il y a moins de clientèle solvable, en tout cas qui puisse faire suffisamment, effectivement, en tout cas que les banques aient suffisamment confiance pour leur prêter. Donc il y a moins de pression à l'achat solvable, en tout cas pour les banques. Donc ce qui fait que les prix restent quand même relativement raisonnables, mais il y a quand même une grosse pression locative, donc des rendements locatifs qui sont bien plus élevés, effectivement, dans les quartiers populaires et intermédiaires que dans les quartiers bourgeois.
Alors j'en profite du coup pour rebondir sur une autre question. Est-ce qu'il y a dans ces quartiers populaires une pression de l'impayé ?
Alors non, ça c'est aussi une fausse idée. Alors il n'y a pas vraiment de statistiques, mais il y avait quand même eu une enquête, je crois en 2009 ou 2010, la dernière enquête un petit peu d'envergure, qui nous montrait par exemple qu'il n'y avait pas de plus de loyers impayés en Seine-Saint-Denis que dans les Hauts-de-Seine. Donc ça, c'est un petit peu aussi une fausse idée. Ce qu'on constate, ce que moi j'ai constaté à titre personnel et au travers d'accompagnement aussi de clients, c'est que notamment dans les quartiers populaires et intermédiaires, encore plus dans les quartiers populaires, il y a une population, une clientèle locataire qui a tellement de mal à trouver des logements, qui a tellement de mal à trouver notamment des bailleurs qui leur fassent confiance, tout simplement, que lorsqu'ils trouvent un logement, ça se passe plutôt bien. parce qu'ils savent très bien que s'ils ont des difficultés, bah, ils auront toujours les mêmes difficultés à trouver des bailleurs qui leur fassent confiance. Donc bah, finalement, il n'y a pas plus d'impayés aujourd'hui, je parle bien du parc privé, hein. Mm-hmm. Il n'y a pas plus d'impayés dans le parc privé, dans le 93 que dans le 92 ou à Paris, etc. Ça, c'est un petit peu aussi une fausse idée. Et voilà, alors, notamment, je peux vous dire qu'à titre personnel, les problèmes de loyer, ce n'est pas forcément avec les populations de locataires qu'on peut s'imaginer. Moi, les problèmes que j'ai eus, c'était plus avec des CSP+, qui connaissaient très bien les lois, que sur des quartiers populaires ou intermédiaires. Donc ça aussi, c'est un petit peu une fausse idée. Donc il ne faut pas être effrayé par ça, non, effectivement.
Alors c'est vrai, je ne devrais peut-être pas le dire en antenne, mais on n'a pas de tabou dans la maison de l'investisseur. Moi, j'ai déjà entendu des gestionnaires et des gens qui, justement, se chargent de trouver des locataires en agence pour le compte de propriétaires dire que bon, quand tu vois arriver un avocat ou ce genre de choses, t'évites de louer.
Oui, alors bon, faut pas non plus, il y a des avocats qui sont de très bons locataires, il n'y a pas de souci, mais on se rend compte qu'effectivement, c'est pas nécessairement avec un certain type de clientèle où on pourrait avoir peur ou des appréhensions. C'est pas forcément effectivement toujours avec ce type de population de locataires qu'on pourra rencontrer des problèmes. Ouais.
Alors, si j'investis, est-ce que le fait d'investir en secteur populaire ou bourgeois... Alors, je vais le tourner autrement. Si je souhaite conserver cet investissement, c'est-à-dire pour peut-être quelque chose de pérenne, une transmission familiale, ou si je souhaite simplement investir pour un temps déterminé, est-ce que le fait d'investir en secteur bourgeois ou populaire doit influer justement... Est-ce que ça va changer en fonction de ce pourquoi j'investis et de la pérennité de cet investissement ?
Alors si effectivement vous voulez transmettre, vous voulez loger vos enfants, vous voulez loger votre maman, vous voulez avoir une utilisation personnelle, là ça va être effectivement des quartiers où vous aurez envie peut-être demain de vivre ou de faire vivre vos enfants. Donc là on va sortir un petit peu de ce paramètre-là. Je pense que ce qui est important peut-être, c'est de se dire entre deux secteurs, secteur populaire, secteur bourgeois, il y a surtout une notion qui est importante, je pense, c'est est-ce que vous avez déjà un capital à faire fructifier ? C'est-à-dire que on peut, si vous avez un apport personnel, par exemple, sur un investissement, si vous avez une forte capacité d'épargne, vous pouvez, mensuel, hein, je parle, vous pouvez arriver aussi à un bon équilibre, notamment en mettant de l'apport personnel, aussi dans un quartier bourgeois. Mais si vous voulez créer, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez créer ex nihilo du patrimoine, il faut aller chercher plus de rentabilité. Ça ne sera pas forcément un patrimoine que vous allez utiliser pour vous et vos enfants. Là, il faut raisonner purement
investissement.
Économiquement. Mmh. Dans ce cas-là, si vous voulez créer ex nihilo du patrimoine, si vous n'avez pas un capital de départ à faire fructifier et que vous voulez développer du patrimoine un peu fort, avec en tout cas de plusieurs biens, etc., il n'y aura quasiment que dans les secteurs populaires ou intermédiaires que vous pourrez avoir cette équation de rentrée de loyer et de remboursement pour aller chercher une sorte d'équilibre. Effectivement, là, ça ne pourra être que dans les quartiers populaires, intermédiaires, ou alors dans les zones détendues aussi. Hein. Mais ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Mais en tout cas, dans les grandes métropoles, pour aller chercher de l'autofinancement et pour développer un patrimoine important, il faudra vous concentrer sur les secteurs populaires ou intermédiaires. Ça, c'est sûr.
Donc, si je veux créer, comme vous le disiez, un patrimoine ex nihilo, que je n'ai pas forcément d'apport personnel à mettre là-dedans, ou que j'en ai un, mais que je ne souhaite pas le mettre, plus adapté d'aller vers le secteur populaire.
Voilà, tout à fait. Pour la rentabilité.
Pour la rentabilité. Alors, dans ces cas-là, il faut mettre l'affect de côté. C'est-à-dire que je ne vais pas visiter l'appartement en me disant que potentiellement, j'y mettrai ma fille quand elle fera ses études.
Il faut un raisonnement avant tout économique, effectivement. L'affect, alors... Je ne fais pas partie de ceux qui disent il ne faut pas l'imaginer pour soi, c'est un raisonnement purement économique. Il y a quand même un peu aussi d'affect, y compris dans l'investissement immobilier. Il faut être conscient de ce qu'on achète, de l'environnement, de comment le secteur peut évoluer. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas forcément se projeter pour soi, pour ses enfants, pour sa maman, etc. Il faut avoir un raisonnement purement économique. Alors une chose importante aussi, dans les secteurs populaires, intermédiaire par rapport au secteur bourgeois, ça va demander, il faut être clair aussi et tout à fait objectif, ça va demander plus d'investissement personnel. plus d'investissements personnels, notamment pour la location et la gestion. Parce que dans les secteurs bourgeois, vous n'avez pas de difficulté à trouver des locataires assurables, hein, notamment pour les loyers impayés, oui. S'il y a de la difficulté, etc. Parce que vous avez une très forte pression locative avec une population bien installée de cadres, etc. Bon, de gens qui sont en CDI, etc. Ça ne pose pas de soucis, mais ce qui ne sera pas forcément le cas dans les secteurs populaires ou intermédiaires, vous aurez une population de locataires qui parfois ne seront pas assurables. Donc, mais ça ne veut pas dire que parce que les gens ne sont pas assurables qu'ils ne vont pas payer leur loyer, hein, pas du tout. Mais simplement, sur un secteur populaire intermédiaire, il faudra peut-être prendre votre risque vous-même, même si vous avez un gestionnaire, en rencontrant personnellement les locataires pour faire votre choix, y compris sur des locataires qui ne seront pas forcément assurables tout de suite parce qu'ils sont en intérim, parce qu'ils sont en CDD, etc. Donc plus d'investissement personnel, notamment dans le choix de ces locataires. Plus d'investissement personnel aussi quand il y a des difficultés, notamment quand il commence à y avoir des impayés, etc. Même si vous avez un bon gestionnaire, votre gestionnaire, il va envoyer des recommandés, etc. C'est pas forcément ce qu'il faut faire.
Il faut du lien social dans ces cas-là.
Il faut tout de suite aller rencontrer ses locataires, voir s'il y a de la difficulté. Parfois, il faut en arriver à leur proposer de quitter le logement très rapidement, quitte à abandonner un mois ou deux d'impayés. Il vaut mieux que le problème se règle rapidement plutôt que ça parte pendant des mois ou des années. Mais donc ça demande effectivement un investissement personnel plus important parce que, contrairement au quartier bourgeois, où de toute façon, même si vous avez des difficultés, vous avez de bonnes assurances loyers impayés, vous n'avez pas de difficulté à trouver des locataires qui rentrent dans les clous. Donc vous aurez moins d'investissement personnel dans des quartiers bourgeois que dans des quartiers populaires, c'est sûr.
Oui, alors juste pour terminer, parce que malheureusement, Stéphane, notre émission touche déjà à sa fin. On a même dépassé le temps qui nous était imparti. Mais juste par rapport à la garantie de loyer, on peut quand même toutefois rappeler que c'est quelque chose qui s'est généralisé ces dernières années.
Oui, tout à fait.
Que c'est pas une obligation, mais quand même la plupart des, ben, notamment des intermédiaires, et là je pense aux agences, vendent ça à leurs propriétaires comme une garantie dans une offre commerciale. Mais on peut fonctionner sans. C'est-à-dire qu'on peut très bien traditionnellement fonctionner avec le garant physique. En fait,
bien sûr, le garant physique, voire parfois pas de garant.
La confiance.
Globalement, il y a peu de sinistres en France sur les loyers, en tout cas dans le parc privé. Donc, pour les assurances, ça a quand même un certain coût, même si c'est déductible. Donc, il faut savoir de temps en temps s'en passer, faire confiance aussi un petit peu, et puis voilà, mais prendre ces risques en s'impliquant un peu plus, effectivement, dans la gestion, dans la location, dans la gestion qu'on le ferait dans un quartier bourgeois où ça roule un petit peu plus, quoi.
Alors, cher Stéphane, avant de conclure cette émission, il me semble que vous avez une petite anecdote à partager avec nous.
Oui, c'était une question, Charlotte. Est-ce que vous savez pourquoi, en France, est-ce qu'à peu près dans toutes les villes, est-ce que les quartiers bourgeois sont à l'ouest et les quartiers plus populaires sont à l'est ?
Alors, je crois que j'ai un faisceau d'indices.
Oui.
Il me semble, de mes anciens cours d'histoire, que c'était une histoire d'odeur. Que le vent en France va de l'est à l'ouest. Et donc, les riches ne voulaient pas sentir les odeurs de la pauvreté.
Voilà,
donc,
c'est ça. C'est qu'à l'époque, effectivement, quand ces quartiers se sont bâtis, développés, les usines, les tanneries, tout ce qui faisait effectivement de la fumée, des odeurs, était dans les villes.
Oui, et puis on n'avait pas non plus le système d'égouts qu'on a aujourd'hui, donc ça ne sentait pas très bon dans les rues de Paris.
Tout à fait. Et comme les vents, majoritairement en France, donc sont plutôt d'ouest en est, effectivement, le vent rabattait les fumées, les odeurs, etc. sur l'est. Donc les bourgeois, tout naturellement, sont allés construire leurs hôtels particuliers, leurs beaux immeubles, effectivement, à l'ouest, où ils étaient un petit peu plus préservés, effectivement, des odeurs, de la fumée, de la pollution. Déjà à l'époque, et donc bravo Charlotte, vous êtes incollable en tout cas sur, vous avez bien retenu en tout cas vos leçons.
Je suis assez férue d'histoire, et j'ai toujours trouvé que l'anecdote était rigolote.
Ouais, tout à fait, bravo.
Comme je le disais, notre émission touche à sa fin. Merci Stéphane pour vos éclairages d'expert en investissement, merci à la technique et surtout merci à vous, auditeurs. On se retrouve le mercredi 28 avril à 10h10 pour le prochain numéro de La Maison de l'Investisseur. À très bientôt sur Radio Immo.
La Maison de l'Investisseur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et toutes les plateformes de streaming.